19, le magazine.
Parole d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Bonsoir parce que désormais, avec l'heure d'hiver, il fait quasiment nuit. Pouvez-vous imaginer, chers auditeurs, Paris, le quartier latin, plus précisément, sans librairie ? Non, bien sûr. C'est pourquoi, il y a quelques années, lorsque la librairie des presses universitaires de France, sur la place de la Sorbonne, a fermé pour un magasin de vêtements, le choc a été durement senti. Mais connaissez-vous la plus grande librairie du quartier latin ? Connaissez-vous son fondateur et directeur ? Pour cette seconde émission 2017-2018, je vous invite à découvrir cette maison d'édition ainsi que son fondateur et directeur. Il s'agit des éditions L'Harmattan. L'Harmattan, c'est un vent chaud et sec venu du Sahara. Le sous-titre de cette maison d'édition, c'est « Au carrefour des cultures ». Et je vous assure que ce sous-titre est tout à fait remarquable et tout à fait justifié, car je connais pas personnellement une autre maison d'édition où le carrefour des cultures soit aussi intense. Denis Priant, fondateur et directeur, nous reçoit dans son bureau. De nombreux manuscrits, une pile de livres, ceux publiés la semaine dernière. L'écran de l'ordinateur ouvert, deux téléphones, au mur des tableaux, dont plusieurs d'Afrique, et la trace du théâtre lucernaire qui désormais relève de l'Harmattan et qui s'avère être une magnifique réussite. Savez-vous que les éditions L'Harmattan ont 11 implantations dans le quartier latin ? Et si vous voulez, pour ne pas vous donner trop de chiffres, je dirais que le capital de livres publiés à ce jour est de 47 000 pour 520 collections et que le nombre d'auteurs représente 32 750. Enfin, chaque année, il y a 2700 titres nouveaux de publiés, soit environ 225 par mois. Alors, écoutons cet entretien avec Denis, une première partie que nous reprendrons dans la seconde, mais écoutons Denis qui nous accueille dans son bureau. Bonjour Denis.
Bonjour, bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre bureau du quartier latin. Nous sommes entourés de livres, de manuscrits, d'une machine à photocopier, de courriers nombreux, d'un écran qui, j'imagine, est presque toujours ouvert. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons avoir cet entretien, Denis. Vous êtes un éditeur que l'on ne peut pas comparer à d'autres. Votre chemin faisant est très, très singulier. Et donc, je vous propose un voyage en cette étape pour essayer de mieux vous connaître et de mieux connaître à travers vous, L'Harmattan. La première question, votre origine, d'où vous venez, de quelle famille ?
Alors, bon, si on parle des origines, je dis souvent que, par exemple, par rapport à l'Afrique, ça fait 70 ans que je suis l'Afrique. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à l'âge de 7 ans, à l'école maternelle. Un père blanc était passé, avait parlé de l'Afrique, avait projeté à l'époque à l'école maternelle et qui était aussi l'école des filles, donc il y avait les grandes filles et les enfants de l'école maternelle dans un petit village du Nord qui à l'époque était à 98% de pratiques religieuses, le milieu. Donc il a parlé de l'Afrique et j'ai dit à la grande sœur, sitôt après la rencontre, j'ai dit ben moi je veux m'occuper de l'Afrique, je veux aller voir les petits Africains, je veux aller en Afrique. Et c'est comme ça qu'elle a été. La grande sœur Thérèse a été voir Mademoiselle Gracienne a été voir Mademoiselle Jeanne. En délégation, ils ont été voir Monsieur Dozier, qui était de l'autre côté du mur, dans ce village. Et en délégation aux trois, ils sont partis voir le curé en disant « Denis, il veut être missionnaire ». Voilà. Et donc après, j'ai fait tout le primaire avec l'intention de rejoindre le petit séminaire et la formation donc de départ en Afrique. Voilà. Donc ça remonte à 70 ans, puisque c'était dans les années 48-49, voilà un peu. Donc ça donne le profil. Donc, de formation après, j'ai suivi la filière du monde catho, avec des événements qui ont marqué dans les années 61-62, c'est-à-dire il y a eu la guerre d'Algérie, donc prise de conscience sociale assez forte. Et Et ensuite, donc je suis quand même resté dans ce milieu-là, puisque j'ai fait la formation, 5 années de formation à l'Université grégorienne de Rome, donc formée par les jésuites sur un fonds international, puisque Rome avait des gens de partout. Et à l'époque, ça m'a créé des réseaux assez forts, puisque j'ai ainsi connu un gars qui était le secrétaire de Camara, qui a été même tué après. Enfin, disons que connu beaucoup de gens et des relations qui ont duré et qui perdurent encore. Il nous arrive de rencontrer encore des gens de l'époque, et toujours avec le même optique, parce qu'il faut savoir que des années 60, 58, 60 et 62, où il y avait le Concile et autres, il y a eu un vent d'ouverture et en même temps une ouverture qui n'a pas été suffisamment forte, malheureusement. Donc, de 67 à 75, après, je me suis occupé fortement de la revue Spiritus, qui était la revue des instituts missionnaires, avec Athanase Bouchard. Et puis aussi, dès cette année-là, jusqu'en 81, suivre pas mal la formation des coopérants du monde catho qui partaient en Afrique pour 2 ans à la place de faire le service militaire. Donc, toujours, ça a été l'Afrique. Dans cette formation aussi, il faut dire qu'après, j'ai eu 2 ans à Dakar, 66-67, où j'ai fait psycho et sociaux à l'université et vécu dans le quartier de la Gueule-Tapée. Donc, l'Afrique, c'est une longue histoire et ça reste une longue histoire. Donc l'Harmattan, quand on l'a créé en 1975, c'était un peu dans cette lignée-là. On a été perçu comme catho de gauche, tiers-mondiste, parce que ça occupait un champ relativement large. Mais en même temps, il faut dire que dans l'Harmattan, l'Afrique, qui nous occupe à peu près à 20%, ne fait que 4% de notre chiffre d'affaires. Mais l'Afrique reste fondamentalement dans notre ADN. Quand on a créé donc en 75 l'Harmattan, il y avait Robert Agenot également qui a fondé après Cartala, il y avait Patrick Mérante Sépia, enfin etc. Donc on était un groupe donc à suivre fortement les questions du développement, du sous-développement, etc. Donc 1975, quand on veut lancer l'Harmattan, on se donne 4 objectifs. On n'était pas loin des indépendances. Les indépendances étaient encore récentes. Les indépendances n'étaient même pas terminées, puisque l'Angola, c'était pas terminé. Et puis, il y avait Timor, il y avait le Vietnam qui allait se terminer en 75 avec le départ des Américains. Et puis, il y avait aussi le problème du Sahara occidental, donc toute chose qui marquait. Et donc, l'un de nos premiers objectifs, c'était droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça a toujours resté, et ça reste, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, il peut encore y avoir des mouvements, même si on dit toujours respect des frontières de la colonisation pour l'Afrique. Peut-être qu'un jour, d'autres États peuvent naître, ou d'autres communautés humaines peuvent naître, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le deuxième point, nous étions très très sensibles partout aux questions des droits de l'homme. Question donc des droits de l'homme, parce que ça allait ensemble. Volet suivant, au carrefour des cultures. On est parti de l'a priori, et parce que c'était un fait, Paris, c'était une capitale africaine, ça reste une capitale africaine, capitale latino-américaine. Il y avait à Paris énormément de gens d'Amérique latine exilés ou autres, pour des raisons souvent de dictature en Amérique latine, notamment le Chili, c'était ces années-là, le Brésil, il y avait une forte communauté brésilienne, et la librairie qu'on a reprise au 16 rue des Écoles, c'est l'ancienne librairie de langue portugaise et espagnole. Et puis, au carrefour des cultures, parce qu'il y avait des migrations très fortes, migrations portugaises importantes, espagnoles aussi, puisque c'était encore le franquisme, et ça, ouais, ça allait changer. Donc, dans ce climat-là, on a créé l'Harmattan au carrefour des cultures.
C'est resté comme titre, hein.
C'est resté au carrefour des cultures, tout à fait, parce que c'est jamais fini, et on considère la Terre comme une petite boule, avec une liberté d'agir, enfin une liberté aussi de circuler. Et c'est vrai que nous avons été très touchés, par exemple, même dans notre profession, lorsqu'il y a eu les fameuses lois Pasqua par rapport à l'immigration, c'était bien, bien dommage. Et quand on voit les questions que se posent actuellement avec les réfugiés arrivant de partout, donc les objectifs restent les mêmes. Et le dernier point qu'on a créé tout de suite, c'était au service de la recherche pour la transformation sociale. C'est-à-dire tout livre, quelle que soit la clientèle, même si c'est pour 100 personnes mondialement, ça vaut le coup d'écrire un livre qui peut aider à la transformation, au positionnement de transformation sociale. Et ces 4 objectifs, on les a défendus à travers tous les types d'écriture, c'est-à-dire le roman, le récit, la mémoire, la biographie et bien sûr les essais, et même les thèses, et les colloques. Et ça, c'est important d'avoir tout cet ensemble. Si bien que on a surfé, et un des points quand même qui a été très très vite affirmé, c'est nous ne voulions pas perdre de temps à courir après des subventions. Ça, c'était important, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient publier, mais ils étaient obligés de se retourner vers le CNRS, le CNL, l'Orstom qui est devenu IRD, vers les presses universitaires, mais qui n'avaient pas... Et au fur et à mesure que les crédits ont manqué, eh bien, ça nous a renforcé dans notre optique, qui était de dire, on va créer un système économique pour ne pas dépendre de courir après des subventions. Si bien qu'actuellement encore, il y a beaucoup de colloques que l'on fait, de thèse ou autre, parce qu'on met comme condition d'avancer sur le prêt-à-cliché, ça veut dire d'avoir le texte qui peut presque partir en machine, mais toute la fabrication est épaulée par 10 personnes en interne qui aident les auteurs et qui font le travail avec les auteurs. Et puis après, on peut passer en machine et on met une clause souvent pour les secteurs difficiles d'un achat d'une cinquantaine d'exemplaires. C'est quelque chose qu'on fait aussi en littérature pour la poésie qui est très difficile, pour le théâtre, pour les premiers romans. Mais en général, un auteur, presque de quelque milieu qu'il soit, réussit à avoir à peu près son réseau d'une cinquantaine de personnes. Bien que je dis toujours, un réseau de 50 personnes actuellement est déjà un gros réseau. Voilà. Donc, ayant mis au point ce mode un peu, j'allais dire, de venue des manuscrits, eh bien, ça nous a entraîné à avancer extrêmement vite. Et en plus, comme nous avons très très vite gravi 200 titres, 200 titres, 400 titres, eh bien, on a occupé une place de la recherche et du marché assez fort, avec toujours bien sûr un fonds d'attaque sur l'Harmattan, des gens disant ils font du code d'auteur, et puis dans le milieu parisianisme, mais comment fait l'Harmattan pour réussir à publier autant, etc. Eh bien, c'est notre méthodologie qui nous a permis d'avancer, et d'avancer également sur le plan de la recherche technique et de pouvoir publier à petit nombre d'exemplaires, parce que dès les années 85-86, et ça c'est François Gès qui le disait à l'époque, qui était le patron de la Découverte, qui a repris Maspero, les éditions Maspero, il disait à 86, un livre qui se vend à 500-600 exemplaires est un best-seller en sciences humaines. Et c'est vrai, déjà dès l'époque. Donc nous, on a adapté notre production et notre méthodologie.
Alors, au stade où on en est, d'avoir Denis tordant tout coup éventuellement à une idée qui circule effectivement, que vous êtes un conducteur, c'est faux.
C'est totalement faux, puisque voilà. Même la clause des 50 ne se met que pour les secteurs très très difficiles, mais la majorité d'essais, par exemple Logique sociale, qui a fait plus de 1300 titres, ben, il n'y a aucune demande ni d'achat ni rien du tout. Par contre, on demande et on guide pour arriver au prêt-à-cliché. Parce que le prêt-à-cliché demande beaucoup d'heures. Alors, donc, il y a les contrôles internes, il y a les contrôles orthographiques qui se font quand même en interne. Mais s'il faut relire une thèse de 300 pages, on dit aux gens, faites lire le beau-père, la belle-mère ou la belle-fille, mais arriver au moins au départ qu'il n'y ait pas de faute.
Voilà, qui honore la belle-mère au passage, au moins
voilà.
Une fois.
Et Dieu sait si souvent les parents, les proches des auteurs contribuent à la publication des bouquins, parfois en souffrant.
Pourquoi l'Harmattan ?
Alors, pourquoi l'Harmattan ? Travaillant sur l'Afrique, on voulait quand même marquer un peu notre optique, j'allais dire, de notre passé fortement marqué pour l'Afrique et le monde qui travaillait au lien entre Afrique et Europe, parce que tout à l'heure j'ai pas dit, mais les migrants occupaient une très grande place dans notre choix. On s'est installé au départ rue des 80, qui est une petite rue au plein cœur. On a voulu s'installer au plein cœur du quartier latin déjà. On a dit, on va pas les installer à droite, à gauche. L'édition, c'est dans ce quartier. Bon. Et donc, on avait choisi au 80 pour dire, ben voilà, ça s'ouvre partout, ça va partout. Voilà, c'était assez imagé. Et comme le nom, au moment de signer, on s'est aperçu qu'il y avait une petite société dans la rue qui s'appelait déjà au 80, eh bien on a dit on va prendre le terme de l'Harmattan. Et l'Harmattan, ça sonnait bien parce que c'est un vent, une fois qu'on l'a eu dans le nez en Afrique, on s'est vraiment...
Et c'est un vent
finalement,
du désert.
C'est
hein.
un vent du désert, un vent quand il souffle vers le Sénégal ou l'intérieur des terres et tout ça, c'est un vent qui sur les bracelets d'ivoire écarte légèrement les fentes, c'est-à-dire c'est un vent donc assez sec qui peut être très froid aussi, enfin voilà.
Un vent donc, incisif.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors aujourd'hui, c'est quoi l'Harmattan? Quelques chiffres.
Donc entre 1975 à ce jour, donc on a fait plus de 47 000 titres. Et la production, elle est actuellement donc de 2700 titres par an. Et pourquoi autant? Je dirais que la force de l'Harmattan, c'est de travailler sur un système où les gens sont volontaires pour nous rejoindre. C'est ainsi qu'il y a plus de 400 directeurs de collection effectivement actifs, qui couvrent le droit, qui couvrent les sciences sociales bien sûr, qui couvrent la littérature, qui couvrent l'économie, qui couvrent les recherches médicales, maladies d'Alzheimer ou autres, qui couvrent les questions de l'enfance, etc., etc. Et ces 400 directeurs de collection actifs amènent par an, par leur réseau, 3 à 5 titres, certains plus. Donc, si on dit à 4-5 titres par an multipliés par 400, ça nous donne déjà 1600 titres qui arrivent par nos directeurs qui, pratiquement pour tous, il y a quelques petites exceptions, sont tous des gens qui travaillent bénévolement, qui le font parce qu'ils veulent le faire et parce qu'ils aiment la recherche de leur champ. Ça, c'est une force formidable. Et après, il y a à peu près 700 à 800 titres, un peu plus même, qui viennent par le tout venant. Ça veut dire, c'est les bouquins qui arrivent spontanément, et tous les jours, on reçoit à peu près 40 manuscrits. Donc les gens, quand ils disent l'Harmattan, mais ils font pas de choix, ben qu'ils viennent, qu'ils s'en prennent à nos directeurs de collection, qu'ils aillent voir si des gens dans le secteur de la psychologie, comme le professeur Nadal, n'ont pas fait son travail, ou un gars qui nous a merveilleusement aidé, comme Gérard Marcoux, qui malheureusement est décédé à la sortie d'un colloque il y a 2 ans, et qui, en logique juridique, a fait un travail formidable. Ou si on voit, comme Bruno Pequeno et son équipe, la collection logique juridique a elle-même ferait 2 maisons d'édition, puisqu'il y a eu plus de 1400 titres faits depuis 1975. Que nous ne nous posons jamais la question pour savoir si un titre va être rentable ou pas, puisque on a monté un système économique, je dis toujours, on passe là où les autres trépassent, par économie. Voilà, donc ça c'est une force, tout cet ensemble de collections. Les revues également, puisqu'on a encore actuellement, même si ces dernières années, un certain nombre de revues ne se sont passées qu'en numérique, ou certains ont disparu, mais des revues comme L'Espace et Société, L'Homme et Société. On a plus de 60 revues qu'on continue encore et qui sont bien sûr, pour certaines, sont également aussi sur Cairn, sur revue.org, etc. Nombre d'auteurs, nous n'avons plus de 37 000 auteurs effectivement vivants.
Combien d'antennes Harmattan dans le quartier latin?
Alors, ben, dans le quartier latin, on a 9 implantations. Et puis, j'allais dire quelque chose aussi qui pour nous a marqué. Ça a été la reprise le 13 juillet 2004 du Lucernaire, qui est donc un théâtre qui marque fort, puisqu'il y a 7 pièces de théâtre tous les soirs, que nous avons fait aussi sans subvention, et qui tourne. Et actuellement, ben, le Lucernaire doit faire 3 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, plus de 120 000 spectateurs. Et qui tourne.
Voilà, ne quittez pas l'antenne. De toute façon, je vous expliquerai comment avoir la totalité de cet entretien. Nous allons poursuivre après les informations avec Denis pour découvrir les éditions L'Harmattan, qui sont vraiment une très très grande maison d'édition. Ne quittez pas l'antenne. Poursuivons, chers auditeurs, la découverte des éditions L'Harmattan et de son fondateur-directeur, Denis Priant. Sachez que la totalité de cette émission, plus une note de synthèse très détaillée, sera demain soir, à cette heure-là, sur le site http://, et ensuite relié, art au pluriel, culture au pluriel, éducationsingulier.com/. Vous retrouverez ainsi la totalité de cette émission, plus encore une fois l'entretien. Alors, continuons d'écouter Denis Priant dans cet entretien. Alors, quand je vous écoute, Denis, je me pose une question, mais il y a combien de personnes à temps plein autour de vous pour faire tout ça?
Alors, les personnes à temps plein, les vraies personnes à temps plein, oui. les besogneux, vraiment, ceux qui font vraiment tourner la machine de l'interne et salariés, c'est 49 salariés dans l'édition.
49 salariés seulement.
Dans l'édition. Dans l'édition.
Dans l'édition.
Après, il y a les librairies. Le théâtre, c'est 30 personnes.
Oui.
Voilà. Et puis, autrement, c'est toute cette mouvance autour, puisque je vous dis bien, les 400 directeurs font un travail énorme, et c'est eux qui organisent aussi des rencontres, des colloques, des gens, ça démultiplie et ça nous aide même dans la diffusion, parce qu'il faut dire que les auteurs, c'est une partie extrêmement vive également de la commercialisation, leur présence sur le terrain. Il faut savoir que dans notre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'édition, c'est à peu près 9 millions actuellement. Eh bien, il faut savoir que 33% de ce chiffre est totalement fait par les auteurs. Les auteurs, donc, c'est une partie forte de notre commercial aussi. Voilà. Après, donc, on a aussi une dizaine d'auto-entrepreneurs qui sont pour la fabrication, qui suivent de l'extérieur. Alors, quand on voit aussi les questions du personnel et la productivité qu'on a, c'est qu'on a travaillé aussi assez à fond avec un imprimeur qui s'appelle Corlet et avec d'autres personnes extérieures, notamment pour le site, et qu'on est très impliqué donc, dans tout ce milieu pour la création d'instruments le plus adapté à notre production et à notre méthodologie. Et là, on progresse encore, puisque Xavier, le neveu qui a repris depuis 6 ans, aide beaucoup et fait la transition forte dans la méthodologie. Et historiquement, alors après, quand je dis ça aussi, il faut tenir compte aussi qu'il y a par exemple les éditions d'Academia où c'est 5 personnes, il y a SPM, c'est encore des personnes qui travaillent aussi dans les sous-marques, Horizon, il fait son travail à fond, Indigo côté femme fait, etc. Ou Sepia qui vient de rejoindre, continue leur travail, etc. Et nous, c'est assez facile, j'allais dire, d'intégrer dans notre machine une production un peu plus importante, voilà. Et on met ça à disposition, c'est-à-dire qu'on est sollicité pour la reprise d'entreprise, mais à chaque fois, donc on dit, on maintient les cadres, enfin les gens qui font l'éditorial, l'édition, et le reste, on le digère au mieux, voilà.
Finalement, je pose une question, mais vous avez déjà en partie répondu, mais je voudrais qu'on en fasse la synthèse. Quels sont les secrets de votre réussite ?
Les secrets de la réussite, bon, c'était... Enfin, d'abord, il y a sur le point de vue, j'allais dire contenu, et du point de vue relationnel. Je pense que, quand je dis toujours, l'une des forces, c'est les directeurs de collection, ça, c'est la reconnaissance de leur travail. Ils font un travail formidable. Ce sont des universitaires qui croient d'ailleurs en leur métier, et qui sont... Alors, quand je dis, nous avons la chance, on travaille sans subvention... Je dirais merci à tous ces gens qui ont leur profession et qui travaillent avec nous pour faire tourner, voilà, ça. Et une très grande autonomie et une très grande liberté. Un directeur de collection, il est responsable de son contenu. Je n'ai dû intervenir en 40 ans qu'une seule fois pour dire à un directeur de collection, là, je ne marche plus, on bloque. Parce qu'on est très libre sur les idées. On peut avoir lacanien, anti-lacanien, freudien, tri-freudien. C'est de l'étude, on fonce. On peut aussi politiquement avoir un bouquin qui dit des choses intéressantes. C'est pas parce que la personne est de droite qu'elle a tort. C'est pas parce qu'elle est de gauche qu'elle a raison, etc. Donc on dépasse tous ces clivages-là, y compris dans nos séries politiques. Donc ça, c'est le numéro un. Le deuxième point, c'est on a dans l'ensemble un personnel relativement motivé. Bon, historiquement, on a été un peu enquiquiné pendant 1 an et demi par quelqu'un qui était d'une extrême gauche. On a réussi à l'avoir dehors. Grand bien pour nous. Donc, et ça, je n'ai pas peur de le dire. Ça, c'est important. Le deuxième point, c'est on a toujours su y aller avec de petits moyens. C'est-à-dire, mais en même temps, toujours à la pointe de la recherche et du suivi. Et ça... Dans le culturel, par exemple, l'Harmattan a suppléé énormément beaucoup des presses universitaires qui ont dû fermer. C'est-à-dire qu'il y avait du personnel, mais qui produisait 5-10 bouquins par an, et qui, à la limite, revenait extrêmement cher à nos impôts. Donc l'adaptation de la méthodologie qu'on prend. C'est vrai qu'on accepte aussi parfois d'avoir une thèse, enfin là je vais faire un petit couplet là-dessus, parce que je n'ai pas peur de publier une thèse qui fait un apport énorme du point de vue de la recherche, mais où il va rester quelques imperfections linguistiques. Parce que j'ai vu, par exemple, on a publié une thèse sur les Joubas, 3 volumes sur les traditions orales, du Soudan. Si je parlais l'arabe comme l'auteur parle le français, j'en serais plus qu'heureux. Donc j'accepte de publier avec quelques tournures qui restent imparfaites. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas économiquement remettre un correcteur qui va sur 1200 pages passer 240 heures, etc. Mais le contenu vaut le coup de circuler. Donc je le fais. Donc j'accepte qu'on me dise de temps en temps, il reste quelques fautes. Oui, je le sais, mais j'ai vu chez des grands éditeurs, dans des bouquins de grands auteurs, des fautes. Donc ça, c'est le point. Donc quand on dit quelle a été la force de l'Harmattan, ça a été tous les gens qui ont travaillé avec nous, tous les auteurs aussi, et les auteurs sont très mobilisés. Voilà. Il y a eu des cabales contre l'Harmattan, dont une récente, c'est d'un journaliste, je ne sais pas s'il est journaliste, qui avait fait un article en disant « L'Harmattan, l'éditeur qui ne paye pas ses auteurs ». Cet auteur, ce journaliste du Monde, on l'a reçu, on lui a expliqué notre méthodologie et il a fait un article putassier. Et ça, c'est un défaut du Monde aussi. Je n'ai pas peur de le dire. Là, on a encore écrit au Monde et je continuerai à le dire. Il a totalement, alors qu'on lui a expliqué, il a faussé aussi totalement le témoignage d'un auteur qu'on avait publié avec risque, parce que c'est un auteur qui est homosexuel, et on a publié ses bouquins en sachant le danger qu'il y avait pour l'auteur. Donc quand on voit des cabales de ce genre qui cherchent à nuire, on ne sait pas pourquoi, ben voilà. Et je préfère le dire publiquement, et je continuerai, ce monsieur Mbok, ce journaliste, et n'est pas un gars sérieux. Voilà.
C'est très parisien, ça.
C'est parisien au possible. Non. Le parisianisme est très fort. Et nous, on a l'avantage aussi, précisément, de ne pas être enfermé dans le milieu parisianiste. Enfin, je dis ça. Aujourd'hui, je reviens du Procope, où il y avait un prix, le Procope, il n'y a rien de plus parisien, qui remettait un prix à un auteur africain pour un roman. Bon, c'est intéressant qu'il y ait aussi des événements comme ça qui les classent. Et j'étais content de revoir un peu le milieu de toute cette littérature africaine, puisqu'il y avait les grands ténors, Liliane Castelot et autres, qui étaient intéressants. Voilà.
Denis, avant de revenir à quelque chose de plus particulier, vous avez une chance incroyable. D'abord, l'Harmattan, Carrefour des cultures, un nombre d'auteurs absolument inimaginable, etc. Vous avez une vision singulière du 21e siècle dans lequel on rentre. Comment vous voyez ce 21e siècle, non seulement dans l'écriture, dans les éditions, mais plus largement dans les termes des enjeux? Quelle est votre lecture du 21e siècle?
Le fait quand même marquant, c'est qu'on est dans une évolution de la société extrêmement rapide. C'est-à-dire, les jeunes, suivre les jeunes tels qu'ils sont actuellement, ça n'a plus rien à voir avec notre jeunesse il y a 50 ans, 60 ans. Donc ça, il faut en tenir compte, mais ils construisent leur monde avec des valeurs, avec des apports. Un phénomène aussi marquant, bien sûr, c'est l'évolution, cet envahissement de la communication en tous sens. Moi, je passe une heure et demie, tous les jours, sur Facebook, et j'apprends énormément de choses sur qui m'arrivent d'Afrique. Je suis plus informé par Facebook que par les journaux actuellement. Donc ça, c'est un phénomène. Et je n'ai pas encore un portable, je suis encore sur mon ordinateur et mon nouveau portable, il est sur la table, je n'ai même pas encore l'ouvrir. Voilà, donc je suis encore un petit à l'ancien. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui donnent une évolution. Je ne suis pas défaitiste. Si on voit aussi la politique française, bon, ben, c'est pas normal qu'on ait 8 millions de personnes un peu larguées. Donc là, il y a quelque chose à faire. Qu'on dépasse le clivage gauche-droite, autant mieux. Enfin, il y aurait un tas de choses, voilà. Mais là, ça.
C'est un vaste débat.
Voilà.
Denis, je vais vous poser la question, une série de questions, à partir d'un questionnaire. La première, trois mots qui rendent présent encore votre enfance.
La chaleur affective de ce climat, frères et sœurs, etc. Qui pour moi d'ailleurs, je dirais en même temps, un peu souffrance, parce qu'à 9 ans, je suis parti avec la valise, et je partais pour 6 semaines, et ça me faisait mal d'être parti. Le deuxième mot, et à ce à quoi je pense toujours, c'est... Ce serait même le même mot, mais par rapport à tout le monde. Et après, je dirais un des mots importants, tolérance. Ça veut dire le mode de vie des gens, mais qui vivent comme ils peuvent vivre, qui vivent le mieux possible. Voilà un peu les...
Trois personnes vivantes que vous admirez le plus.
Là, il y en a plus que trois, parce que j'admire beaucoup mes grands frangins. Les professeurs, si quelqu'un était encore là, parce que j'étais tellement frappé par sa mort, c'est Gérard Marcoux, qui nous a fait un boulot monstre en logique juridique. Ben, à côté, j'ai des gens tout proches qui sont vivants et que je voudrais bien citer, donc je ne peux pas dire trois personnes.
Trois rêves pour la suite de votre voyage terrestre, parce qu'il y a encore plein de rêves.
Un des rêves, bien sûr, c'est pour moi, qui a marqué ma vie beaucoup, c'est que l'armateur puisse continuer son type de boulot. Et donc que la génération suivante qui rentre dans l'entreprise puisse continuer sur la lancée avec les objectifs qu'on a, ouverts, même si on se fait attaquer de temps en temps, on continue. Et là, il y a un boulot monstre à faire. Mmh. Et dans ce rêve, je vois un rôle important des structures africaines et de l'Afrique. Pour moi, c'est tellement mon rêve de voir l'Afrique émerger, parce que j'ai toujours travaillé avec des gens de partout, que ça, c'est fondamental. Un des rêves, c'est par rapport à la souffrance. Je vois trop de gens en galère ici. C'est pas normal. Donc là, ensuite, un troisième rêve, que les gens soient heureux. Voilà.
À ce jour, Denis, qu'est-ce que vous avez le plus négligé de vous, selon vous ?
Négligé de moi, j'ai eu la chance d'avoir une santé énorme, donc je m'en suis foutu de mon mode de vie. Pas fait attention peut-être parfois aux gens les plus proches, parce que je marchais comme un bulldozer et je continue comme un bulldozer.
Alors, selon vous, qu'est-ce que vous laisserez en friche après votre mort ? Parce qu'il y a des choses que vous n'arriverez pas à faire.
En friche, mais c'est tout le boulot qui est en train de se faire. Parce que quand je dis aussi que l'objectif de l'Harmattan, c'est au service de la recherche pour la transformation sociale, c'est une friche énorme.
Vous avez tous les pouvoirs, Denis. Quels sont les trois actes majeurs que vous posez ? Vous avez tous les pouvoirs dans tous les domaines.
Ah, si j'avais aucune retenue, c'est d'abord d'essayer d'arrêter les guerres un peu partout. Eh bien, si j'avais tous les pouvoirs, peut-être que je donnerais à tous, quand même, à tous les Français, le salaire minimum. Au moins un minimum garanti pour qu'ils n'aient plus de difficultés à payer la fin de mois. Ça, ce serait une des choses. Et puis autre chose, le bonheur, je ne sais pas si ça peut se distribuer, ça, le donner partout.
Si vous aviez trois mots, Denis, pour parler du monde actuel dans son ensemble.
Je dirais le monde actuel, c'est mouvement, tempête, changement. C'est-à-dire, on est dans un monde qui bascule, qui bouscule, qui n'a plus ses marques, mais qui en trouve d'autres. Donc voilà. Alors ça, c'est peut-être l'âge qui me fait dire ça, parce que le jeune, il est dans son monde. Et donc le monde, pour moi, c'est vraiment important qu'on retrouve que les grands moyens qu'a ce monde, les grands moyens permettent de solutionner les grands problèmes de ce monde. On parle de la Chine, on en a tous peur, mais donc c'est vrai qu'il y a un métissage qui va se faire plus vite qu'on ne croit. Mais la Chine, derrière, il y a encore des millions de gens qui sont à un niveau de seuil. Il y a encore 800 millions de gens qui crèvent de faim, c'est pas possible. Voilà.
Vous avez une devise dans la vie, et laquelle ?
Moi, j'ai surtout la devise de dire, faut pas trop s'écouter, on avance. Faut pas. Et je crois que il y a une attitude psychologique par rapport à la vie. On pense tous par des moments où on en a marre, où on sait plus. Allez, une bonne bastonnade et on fonce. C'est-à-dire vraiment croire qu'on peut changer les choses là où on est. Voilà.
Quelles sont les trois valeurs majeures de votre vie, à partir du moment où vous regardez comment vous avez avancé votre
chemin ? Valeur de la vie, service, c'est-à-dire ouverture aux autres, service, et puis partage.
Quelle est la question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose ?
Si on se voit par rapport au monde contemporain, il y a des centaines de questions, mais qui à chaque fois demandent un colloque, demandent des rencontres, précisément. C'est tout le travail que font tous les intellectuels, etc. Si vous voyez la pile qui est là-bas, où il y a les 120 bouquins qui sont sortis cette semaine, dedans, il y a toutes les questions qu'on doit poser et qu'on a constamment à améliorer, à réponse ouverte toujours, puisque ça bouge toujours.
Merci Denis, cet entretien est passionnant. Je pense que vous avez compris que l'Harmattan, qui est un vent du désert qui vous titille, c'est la seule façon de développer le carrefour des cultures, c'est-à-dire d'avancer de plus en plus pour que les cultures se parlent, que les gens se parlent. Et dans ce domaine, l'Harmattan, ce n'est pas qu'une maison d'édition, ce n'est pas qu'un nombre de lieux dans Paris, ce n'est pas que des chiffres, c'est un état d'esprit et c'est assez extraordinaire. Merci Denis.
Merci.
Voilà, cet entretien avec Denis et la totalité de l'entretien d'une part et ces deux séquences que j'ai choisies ce soir seront demain soir à cette heure-là sur le site que je vous indiquais http://relier@culture-education-singulier.com/. Cette musique, Malaika de Myriam Makeba, elle a été choisie par Denis. Je voudrais finir cette émission en vous faisant une confidence sur Denis. Outre ses compétences, sa capacité à piloter le développement de l'Harmattan, et vous verrez dans la note de synthèse que je ferai que ce que nous avons parlé ce soir n'est qu'une partie seulement, Denis est profondément humain. En silence, loin de l'écume des jours, il agit. Je pense à des clochards à Paris, monde qu'il connaît bien. Je pense à des personnes en difficulté qui frappent à sa porte, il y en a une pendant cet entretien, et qui ont toujours une réponse. Je pense à son action en Afrique. Outre ses 11 structures en Afrique, une maison d'édition à Dakar, il pose des gestes forts. Je vous donne deux exemples. Voyant dans un coin de l'Afrique l'absence d'une école, il réussit ce tour de force en un temps record à créer une école pour 2700 euros. Ou encore, il fait une opération livre vers l'Afrique régulièrement parce qu'il veut que partout dans la brousse, il y ait des livres porteurs de culture. Il a compris depuis longtemps, je crois, que le devenir qui s'amplifie de l'Afrique sur la scène du monde et pour la francophonie va marquer notre devenir. Denis vit simplement en simplicité, il est au carrefour des cultures et c'est un passeur exceptionnel. Voilà, à demain soir, chers auditeurs, pour la découverte d'une autre personne, Jean Staume. Merci à Denis.